Maurice Renard, Les enquêtes du commissaire Jérôme, le plus grand détective du monde. Le procureur de la République près le tribunal de Belley arriva dès 8 heures du matin au château de Mirastel. Ce fut le commissaire divisionnaire Jérôme qui le reçut en compagnie de M. Daniès. Jérôme se nomma, expliqua rapidement que M. Daniès, son vieil ami, l'avait invité à passer quelques jours à Ministrel et que lui, Jérôme, en la présente et tragique circonstance, s'était permis de donner aux gendarmes certains conseils. « Je serais trop vous en remercier, » affirma courtoisement le magistrat. Le maréchal des logis, qui avait fait les premières constatations et qui venait ouvrir son calepin, précisa « Monsieur le divisionnaire vous a surtout recommandé la discrétion, le silence jusqu'à votre arrivée, monsieur le procureur. Sur ces indications, nous avons coupé toute communication entre le château et l'extérieur depuis la découverte du crime. Le médecin lui-même se trouve encore ici. » Le procureur approuva d'un signe de tête, bien qu'il n'aperçût pas toutes les raisons qui, sans doute, avaient motivé une consigne de silence aussi rigoureuse. « Votre rapport, » fit-il, s'adressant aux sous-officiers. « Bien, voici, monsieur le procureur. Ce matin, à l'aube, nous avons été requis par monsieur Daniès, qui était venu en auto, tandis que monsieur le divisionnaire restait sur les lieux, de nous transporter à son château de Mirastel pour constater le meurtre commis sur la personne d'une jeune servante âgée de 17 ans, nommée Agathe Césarine Argaz. Puis la vieille femme entra dans le cabinet de monsieur Daniès, et le procureur était au bureau, son greffier sur le côté, M. Daniès et le commissaire. Jérôme occupait les fauteuils à côté, à l'écart. « Ne craignez rien, » lui dit le procureur. « Asseyez-vous, madame. Vous êtes bien madame veuve Annelet. La tante d'Agathe Argaz. Oui, monsieur, la grande tante. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Avez-vous vu votre nièce hier dimanche? Oh non, monsieur, non. Je comptais bien la voir, que madame Daniès lui donnerait congé et la permission de venir au village, passer un petit bout de temps avec moi. Mais ces messieurs sont arrivés de Paris mercredi. Alors la petite est venue m'embrasser jeudi matin. Et puis donc, j'ai vu madame Agnès qui m'a dit comme ça qu'Agathe faisait bien son service, qu'elle était contente d'elle, quoiqu'elle soit un petit peu trop coquette. Madame Daniès m'avait promis qu'elle aurait congé hier dimanche. Oui, ce congé lui a été accordé, madame. Madame Daniès, Agathe, a disposé de toute sa journée pendant que monsieur et madame Daniès et leurs hôtes faisaient en auto une excursion dont ils devaient revenir après minuit. Les autres domestiques l'ont vu descendre dans le village après le départ de ses maîtres. Elle avait bifurqué. La vieille s'assombrit et murmura: Oh, on m'avait bien dit, oui, qu'on avait cru la voir dans les hauts, se promener avec Frédéric Mariou. C'était son bon ami? Oui, oh, je ne peux pas dire ça. Dieu merci. C'est moi qui l'ai élevé, une bonne petite, j'en réponds. Se promener avec un galant, peut-être, mais rien de plus. Quant à Frédéric, il lui plaît, oh, je le sais bien. C'est un malheur parce que, voilà, c'est un mauvais garçon. Oh, allez. Mais dites-moi, donc, ce qui est arrivé à Agathe, je vous en prie, j'en supplie. Le procureur hésita et dit pourtant. Tout à l'heure, madame, tout à l'heure, si vous retirez. Un sourire contraint tirait la bouche de Frédéric Mieux lorsqu'il se présenta devant le procureur. C'était un homme de petite taille, brun, l'œil vif, un joli garçon, solidement campé. Mariou, je vous ai fait venir pour que vous me racontiez votre journée d'hier. Comment avez-vous employé? L'interpellé prit un temps, se dandina. Eh bien, monsieur, je me suis baladé dans la montagne. Seul? Non, avec Agathe Argaz, qui est femme de chambre au château. En effet, on vous a vu avec elle de loin. Oh, je savais pas, dit Mariou avec simplicité. Mais on ne se cachait pas, on n'a pas fait de mal. Depuis qu'Agathe est partie à Paris avec ses patrons, je suis resté en relation avec elle. On s'écrit, quoi. Alors, mercredi, comme elle avait congé, elle m'a rejoint dans les Hauts. Il faisait un temps superbe, comme vous savez. Alors on est monté aux granges, là on a déjeuné, j'avais apporté des provisions, et puis on est allé jusqu'au sommet, à la croix, parce qu'Agathe aimait mieux marcher que de rester assise auprès de moi. Enfin, la nuit, on est redescendu. Elle voulait rentrer avant ces messieurs et dames qui étaient partis en virée du côté de Chamonix. Elle avait les clés de la grille. Je vous le répète, on n'a rien fait de mal. Oh, je sais bien qu'Agathe est mineure, et je suis un honnête homme comme elle est une honnête fille. Pour vous plaire, elle avait mis sur elle sa belle robe. Elle s'était arrangée coquettement. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me demandez-vous? Elle portait probablement des bijoux. Bijoux! S'exclama le paysan, stupéfait. Des bijoux! Oh, je me rappelle, moi, que sa bague, une petite bague qui lui vient de sa maman, vous êtes sûr? C'est curieux. Madame Agnès a constaté ce matin la disparition d'un assez beau collier, d'un bracelet, le tout en or enrichi de pierres. Et elle supposait que sa petite coquette servante s'en était servie pour se montrer à son amoureux, quitte pour elle, avant le retour de la maîtresse, de replacer les joyaux dans le vide-poche où celle-ci les avait laissés par mégarde. Oh, je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. Agathe ne portait pas de collier ni de bracelet, monsieur. Mais voyons, ne peut-elle pas vous le dire certifier elle-même? Ou bien est-ce qu'on l'accuse de... Où l'avez-vous quittée? À la grille du parc? Non, j'aurais voulu la reconduire jusqu'à la grille. Qu'à cause de l'obscurité et du bois qui allait traverser. Mais elle ne voulait pas qu'on nous voie ensemble, si tard. Et elle craignait que, que des gens du village, du château, ne prennent le frais sous les arbres. Il avait fait si chaud toute la journée. Je l'ai donc quittée à l'entrée du bois. Mais elle l'a contournée par... pour être agréable. Oh, c'est pas prudent, à mon sens. Donc, à supposer que vous, Mario, vous ayez continué tout droit, au lieu de rentrer chez vous directement, vous était facile de parvenir avant elle à la grille et de l'attendre sur le phare et de la sommer pour lui prendre le collier, le bracelet de Madame d'Agnès. Comment? Rugit l'homme, frémissant d'indignation. La sommer, moi? Oh, voilà une histoire. Puisque je vous dis, je vous jure qu'elle n'avait pas de bijoux. Ou alors dans sa poche. Écoutez, Mario, on l'a trouvée morte cette nuit, à quelques pas de la grille. Les phares de l'auto l'ont éclairée. Oh, mon Dieu, gémit Mario en se cachant le visage dans ses mains. Ce désespoir n'est pas de mise en mise, dit le procureur avec le plus grand calme. Je vous place sous mandat de dépôt, Mario. Nous retrouverons à coup sûr votre possession, le collier et le bracelet. C'est en dépit de vos dérogations. La pauvre fille les a portés en votre compagnie. Mais jamais, c'est faux. Vraiment? Eh bien, venez, Mario, conclut le magistrat en jetant au commissaire Jérôme un coup d'œil de convenance. Vous verrez de vos yeux, sur le corps de votre malheureuse victime, la preuve de votre mensonge et par conséquent de votre forfait. Les jeunes servantes qui viennent de Paris ont la peau blanche et le grand soleil des montagnes a vite fait d'empourprer leur gorge et leurs bras, c'est-à-dire y photographier en pâle sur sombre la silhouette précise des colliers et des bracelets qu'elle porte. Et cette nuit, quand vous avez volé les bijoux au cadavre, vous payez à tantons, sans rien distinguer. Alors venez, je préfère ne pas la revoir, balbutia Malraux. Je comprends. Mais c'est pas moi qui l'ai tué ni volé. Allons donc. Pourquoi alors avez-vous menti? Pâle comme un mort, l'accusé baissa la tête. Le procureur se tourna vers Jérôme. Mais sans vous, monsieur le divisionnaire, n'en serions pas là. Cet homme, s'il avait été averti du coup de soleil, changeait de tactique. Permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance. Monsieur le procureur, dit Jérôme avec une ombre de sourire, aujourd'hui, c'est le détective Phoebus qu'il convient de remercier, le plus grand détective du monde. Assurément.